Message à caractère informatique.
Message à caractère informatique.
Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Message à caractère informatique, épisode numéro 155. Nous sommes toujours le 10 février 2026. Je suis Horacio González et je suis accompagné de deux personnes merveilleuses aujourd'hui. D'un côté, derrière cet appareil photo mystérieux, se cache Clément. Coucou Clément!
Bonjour! Salut Horacio!
Et derrière, une relique sur le cloud computing et les SaaS. Qui peut se cacher là? C'est sans doute Sébastien. Bonjour Sébastien!
Salut Horacio, salut Clément.
Bon, si vous avez écouté l'épisode précédent, vous le connaissez déjà, mais on va quand même faire un petit tour de table. Alors, Clément, qui tu es? Qu'est-ce que tu fais par ici? Raconte-nous.
Alors, moi, je suis Clément Nivol. Je suis ingénieur et développeur de formation. Il y a quelques années, 15 maintenant, bientôt 16, j'ai créé Clever Cloud. Que j'ai structuré avec Quentin sur plusieurs versants, à savoir les ventes, le marketing, et puis maintenant c'est plutôt le support, le sujet du jour pour moi.
Et Sébastien, qui t'y est ?
Oui, Sébastien, développeur depuis une vingtaine d'années. Actuellement, je travaille dans une ESN qui s'appelle Serly et je suis utilisateur de la première heure de Clever Cloud. Quand je dis de la première heure, c'est alors une anecdote que j'ai déjà citée, mais j'ai eu le droit d'avoir des drops Clever Cloud à une époque.
Waouh, des drops, souviens-toi de ça, Clément.
Voilà.
Il va falloir qu'on explique ça. C'était ouais. L'idée que j'avais eue avec Quentin.
Et oui.
Alors, c'était quoi les drops, Clément? Alors, pour ceux qui n'ont pas connu cette époque.
C'est très simple. Vous savez que le cloud computing emprunte son nom au nuage, qui est donc en fait ce truc un peu nébuleux, qui est composé quoi? Il est composé de gouttes. Et en fait, on avait décidé plutôt que de parler d'argent et de dire t'achètes tant de crédit cloud, etc., on avait imaginé. En fait, comme le token aujourd'hui, hein, d'ailleurs, on y a une unité, une devise du cloud qui était la drop. Et l'idée était que la drop pouvait avoir des prix différents en fonction de la volatilité de certains composants, comme à l'époque le disque dur ou aujourd'hui la RAM. C'était alors difficile à comprendre pour beaucoup de gens, et la pénétration du marché était un peu dure de la drop. Hein, mais du coup, on s'est rabattu sur les crédits cloud.
Du coup, vous savez dropper les drops.
Il fallait lire le livre.
Cloud Computing et SaaS, il avait tout prévu.
2009, ouais, ça disait ne pas faire de drops. Non, je rigole.
Ah oui, d'accord.
Voilà, bon ça c'était pour la petite anecdote. Et maintenant, de quoi on va parler aujourd'hui? Je crois que Clément a fait un teasing à la fin de l'épisode précédent. On allait parler des méthodos un petit peu.
Ah, faut que je m'en souvienne, c'était il y a une semaine quasiment. ouais. Nous on enregistre en live, hein. c'est la blague. Les deux épisodes sont côte à côte. Le teasing que j'avais fait, c'était effectivement de dire comment est-ce qu'on redéfinit en fait le fait de travailler avec de l'IA. Beaucoup de gens sont allés full blast sur l'IA en se disant tiens, je vais utiliser Cloud Code et puis petit à petit, je vais lui dire ce qu'il faut faire. Et après, vous vous retrouvez avec un spaghetti de code qui est absolument ingérable. Et derrière, vous demandez une autre IA parce que vous avez épuisé vos quotas sur Cloud. Vous passez sur une autre IA qui doit rebouffer un paquet de tokens pour comprendre qu'est-ce que c'est votre code et pouvoir continuer à travailler. Et littéralement, des gens qui peuvent plus travailler quand ils ont plus de tokens. C'est un peu triste, mais c'est comme ça. C'est le sens de l'histoire. Et donc, un truc qui était intéressant, qui mange pas mal de tokens au début, c'est des méthodos. Alors, j'en ai entendu pas mal chez Clever, quand on a la machine à café. On en a parlé il n'y a pas longtemps avec Hubert. J'ai entendu comme ça dans l'air les gens mentionner BIMAD. Et du coup, je suis allé voir et j'ai donné sa chance à cette méthodo qui a fait un truc très simple. Il a posé une question. Enfin, une série de questions à l'initialisation de votre projet. Donc là, on parle d'une page blanche hein, sur un projet. Pour le legacy, on verra plus tard. Mais vous partez d'une page blanche et vous allez avoir plusieurs agents. Donc en fait, c'est votre cloud code qui va être conditionné par BIMAD, qui donc en fait c'est un utilitaire que vous téléchargez en NPM qui va constituer pas mal de fichiers qui disent bon. Pour l'étape 1, tu te mets dans la phase d'idéation. Pour la phase 2, tu te mets en mode chef de projet. Pour la phase 3, tu te mets en UX design, par exemple, s'il y en a besoin. Si vous faites un outil en ligne de commande ou vous, pure server-side, vous pouvez passer cette étape, et ainsi de suite. Et vous allez donc vous causer avec une série d'agents qui vont vous formaliser un truc, comment ça s'appelle déjà ? Un cahier des charges. Ouais. Oui. Un cahier des charges, vraiment tout c'est bête, extrêmement bien structuré, que vous allez relire, qui est en markdown derrière, et qui est pas mal. Et ensuite, il y a d'autres agents derrière qui vont challenger ce cahier des charges, pour vous dire, bon, là, il y a un gros trou, tu nous as pas expliqué ce que tu voulais faire sur comment tu voulais implémenter cette partie-là, parce qu'on sait pas si on a des API, on sait pas si on stocke en local, on sait pas si on va... Des choses comme ça. Donc, soit tu réponds maintenant, soit tu réponds, bah non, on verra plus tard. Et lui, il va le mettre dans les interrogations plus tard, et ça reviendra popper au fur et à mesure où tu implémentes le projet. C'est drôle. C'est drôle parce que vous avez vraiment l'impression d'avoir une équipe avec vous quand vous avancez sur le projet. Il est capable de vous pousser à trouver des idées, en fait, pour voir un petit peu jusqu'où vous allez. Je l'ai essayé sur un tout petit outil, moi, vraiment pour commencer mezzo piano. Et je suis allé chercher un outil en Rust. Donc j'ai codé un outil en Rust, parce que bon, Rust c'est quand même vachement plus simple à coder avec une IA, à partir du moment où c'est un langage qui est un peu plus déterministique que d'autres. Et ça permet en fait de catégoriser les outils, les tickets en support. Donc là, je suis toujours dans la phase d'implémentation, mais c'était très satisfaisant de faire le projet de A à Z et de prendre le projet pour vraiment faire tout le contour. Et tu te rends compte avec BIMAD que quand tu te lances, bah c'est pas clair au début dans ta tête. Et ça, c'est bien. Bon, Rassio, tu voulais dire un truc ?
Oui, bah moi, je l'utilisais, mais à différence, je l'utilisais sur un projet existant parce que dans la doc, j'ai vu qu'il y a un truc magique, un commande qui s'appelle QuickSpec. Et là, il va analyser ta base de code, il va t'écrire des specs qui correspondent et des stories dans les sens agiles. Et là, tu vas pouvoir modifier ça par rapport aux bugs et aux nouvelles features que tu veux ajouter. Donc, ce n'est pas que pour des projets nouveaux, pour des projets existants, ça peut, surtout pour des projets existants, on en parlait des side projects qui avant, tu n'avais jamais le temps de documenté proprement, il va les analyser, il va t'aider à faire une spec technique et te poser des questions quand c'est pas clair ce que tu voulais faire avec ton code. Des fois, tu te rends compte de « Oh, j'avais oublié la moitié » et il va ensuite t'aider à construire les stories pour faire avancer les projets. Moi, j'ai testé surtout BIMAD et SpecKit, que c'était une autre méthodologie, la première que j'avais vu orientée à spécification, et personnellement, BIMAD, ça va un peu plus avec mon style de code. Je pense qu'il y a pour tous les goûts. Sébastien,
Oui, alors est-ce que ça veut dire quoi, du coup, concrètement, là, ce qu'on est en train de raconter ? Parce qu'on parle beaucoup des IA, des agents pour nous aider à faire du code, mais en fait, là, ce que j'en comprends, et moi, c'est ce que je fais aussi beaucoup, mais alors sans les outils dont vous parlez, c'est utiliser l'IA pour rétro-documenter des code bases, ou en tout cas des fonctionnalités qu'on doit soit documenter pour donner à d'autres personnes, soit pour justement refaire une spec propre, voir où il y a des problèmes et réutiliser derrière la génération de code pour réimplémenter, etc. Et ça, je trouve ça super intéressant comme utilisation. Alors, en plus, ça marche hyper bien, la rétrodoc, la rétrospec, etc. Mais du coup, moi, je ne connaissais pas les outils, donc j'irai voir et je vais aller tester parce que ça a l'air hyper intéressant.
Il y a une autre utilisation massive des migrations. Et là, je pense sincèrement que là, ça va être un vrai changement. On va se retrouver, je peux me tromper, mais on va se retrouver avec moins de legacy, justement, parce que des migrations qui n'étaient pas en soi hyper compliquées, mais très complexes, tu vois la différence entre compliqué et complexe, bah là, l'IA, justement, il enlève la complexité, tu peux te permettre de migrer des vieux outils, mais même. Je vais vous donner un exemple. À une époque, il y avait toute une collection de composants faits avec polymère, de web components avec polymère. Cool. Les plus jeunes, vous ne savez pas de quoi je parle, c'était la première bibliothèque de web components vers 2012, 2013, 2014. Quoi. Toutes ces bibliothèques énormes, je les migrais sans problème à Lit, que c'est une bibliothèque actuelle, bien maintenue, d'une façon presque automatique. Ça ne devait, et j'avais jamais voulu prendre le temps parce que c'était pas un truc difficile, mais ça allait me prendre des heures. Et là, boum, c'est magique, mes vieux composants sont migrés, respectant. Et tout, c'est simplement, je me suis débarrassé de legacy là.
Alors moi, j'ai quand même une question là-dessus, parce qu'en effet, je discutais avec un collègue, Mathieu, pour ne pas le citer, qui est le core maintainer d'Otoroshi, Reverse Proxy, qui lui doit migrer en Scala 3. Et du coup, la question se pose, comment on fait ça voilà. Mais du coup, combien ça coûte? Parce que là, sur ton use case, ratio, parce que ce n'est pas gratuit, ça doit quand même bouffer du token, entre guillemets.
Oui. Donc, voilà. Moi, j'avoue, pour ces migrations-là, j'avais mon abonnement pro à 20 euros par mois, et je ne les faisais pas tous migrer d'un coup, donc ça allait. Ça peut se faire sans trop de problèmes parce qu'ils ne demandent pas d'opus. Là, tu peux avoir un sonnet et il te fait les migrations pépère. Ce n'est pas une tâche où il a besoin de réfléchir. C'est là D'accord. où je disais la différence entre complexe et compliqué.
Ouais. Clément? Alors, juste avant d'arriver sur le côté mange token, parce que je pense que c'est un truc qu'on va pouvoir en parler après, mais dans ces méthodos-là, moi, il y a un truc que j'ai pas vu, qui manque cruellement, c'est comment on bosse ensemble. C'est-à-dire, quand t'as une équipe de 3, 4, ça passe à la rigueur. Même à partir de 3, c'est difficile. Je pense que quand t'as une équipe de 8, 9, 10 développeurs, développeuses, qu'est-ce que c'est pénible, en fait, de te retrouver avec des PR où les gens se sont lancés dans un tunnel, Claude. Enfin, sont lancés dans un tunnel avec Claude en binôme, tu vois, pendant une nuit, et à la fin, au soleil levant, ils disent bon, et ben maintenant on commit et on va faire la merge request. Et là, tu vois, la merge request, moi je les vois, hein, chez Clever, les gens arrivent avec des merge requests de des milliers de lignes, ils sont là, genre. Et je sens vraiment comme l'acteur qui faisait Gandalf dans le Hobbit, où il s'était retrouvé entouré de fonds verts avec des marionnettes, avec les visages des gens imprimés, et se disant « mais j'ai pas fait ce métier pour ça ». Je le comprends tellement.
Alors, bon rêve.
Qu'est-ce que... J'ai regardé beaucoup trop de making-of dans ma vie. À quel moment on va finir par voir arriver en fait des méthodos qui te permettent en fait de te synchroniser, des méthodos pas forcément qui sont réglés par un IA, mais par une forme d'étiquette, comme nous on avait une époque où quand on commençait effectivement à bosser à plusieurs, on s'envoyait de la vaisselle à la figure entre développeurs et développeuses parce que il y en a un utilisait les tabs dans son IDE et l'autre utilisait en fait les espaces, et puis ils n'avaient pas la même logique, et à chaque fois que tu commitais un fichier, ton IDE en fait refaisait complètement l'indentation, et au lieu de te faire un commit de 3 lignes, tu avais un commit sur des fichiers entiers. C'était ingérable. Et du coup, ces sujets d'indentation, c'est anecdotique. Il y en a plein d'autres en fait de structuration. On a pris à bosser ensemble avec Git qui s'est un peu imposé comme standard. Où est-ce qu'on va en fait avec ça? Horacio, t'as un truc là-dessus?
Moi, j'ai vu, récemment, j'ai proposé des patchs à plusieurs projets open source, des merge requests. La plupart des gros projets open source, je me souviens, j'ai proposé une NUITEN sur un bug que j'avais trouvé. Déjà, ils se sont outillés, la plupart des projets, aussi avec des assistants IA qui vérifient énormément de choses avant que ta PR soit lue par un humain et qu'il te... Si c'est trop compliqué, si ça ne correspond pas à un issue, si c'est là... Il te renvoie à la case départ. Et là, je pense que c'est une première réponse, pas forcément satisfactoire, mais au moins ça aide à que quand ça arrive en tant que PR et que tu dois la regarder, ça passe déjà en premier filtre. Pour moi, le reste, il y a un truc à inventer.
Oui, moi je pensais à des trucs, pourquoi pas en fait forcer l'IA à mettre un peu un workflow guide, si tu veux, à mettre en place, genre là, quand tu pars dans un truc, on fait direct une branche propre, et ensuite, à chaque étape, l'IA te dit, là ce serait bien qu'on commit, parce qu'on sort d'une idée pour aller vers une autre, ça mérite en fait de faire quelques commits atomiques, etc. J'en parle avec Quentin, mais il est pas d'accord, il trouve que le logiciel est devenu, le code est devenu quelque chose d'extrêmement fluide, et du coup les paires de 10 000 lignes, ça peut passer.
Ça dépend. Si c'est des projets petits ou des... Pour moi, tout change. Il y a maintenant beaucoup de projets qui avant avaient besoin d'une équipe, et maintenant ça se fait à un ou des développeurs. Par contre, sur des vrais projets structurants où il y a une dizaine de développeurs, et je peux imaginer quelques-uns, je suis complètement d'accord avec toi qu'il faut qu'on trouve une méthode qui soit automatisée, peut-être oui, au niveau de Claude, un prompt qui dise, tiens, quand on va démarrer une feature, on fait ça, ça et ça. Ça me semble une super idée. Voilà, un prompt, un skill, whatever, mais qui fasse ça. Par contre, il y a plein de projets qui avant demandaient une équipe complète qui maintenant se fait un ou deux, ou peut-être l'idée de Kantan de faire fluide peut faire plus de sens. Sébastien, tu...
Oui, alors peut-être un début d'élément de réponse, mais c'est peut-être pas suffisant et c'est peut-être pas fait pour ça, mais il me semble un peu que si quand même, les fichiers agent.md ou claude.md, là, est-ce qu'on peut pas déjà donner un minimum de consignes de workflow de travail dedans? Ça peut être ça aussi, hein, de dire bah voilà, créer systématiquement une branche, là, comment lancer les tests aussi. Enfin, normalement, on peut déjà mettre tout ça dans le agent.md, et du coup, quel que soit, alors sauf Claude qui ne le supporte pas encore, il y a une issue ouverte depuis des plombes là-dessus, mais ça c'est un autre débat. Mais du coup, même si on n'utilise pas tous la même IA pour coder, il y a ce côté un peu portable des consignes quoi, pour les différents agents.
Et je pense qu'on va arriver là-dessus. On parlait la semaine dernière des canaries, etc., où en fait on se disait est-ce que tel agent ou tel outil est capable de faire ça. Je pense que ça fait partie des gros points rouges que tout le monde a aujourd'hui, c'est en fait d'intégrer la collaboration. Aujourd'hui, je regarde la gueule des IA et comment elles sont vendues, j'ai l'impression que c'est des trucs qui sont vraiment marketés pour les solopreneurs qui ont trois idées à la seconde de modèles économiques plus ou moins douteux. Oui, en entreprise, on fait comment? Enfin, s'il vous plaît, les gars, nous, on a des vrais trucs à faire à la fin.
Ouais, mais je pense que ça va aller vite parce que le besoin est là, et puis surtout nos chers dirigeants et managers vont pas laisser, parce que là aujourd'hui on travaille un peu en shadow AI. Hein. Alors nous à notre niveau, on nous laisse nous organiser un peu comme on veut. Je crois que c'est pareil chez vous d'ailleurs. Oui. Clever, chacun prend l'IA qui veut, etc. Moi je Bon, est-ce que c'est pérenne ce système-là? Je sais pas. Moi, ça me convient bien aujourd'hui. Après, il y a des structures où ça peut peut-être pas marcher comme ça et où il faudra justement standardiser, voilà, mettre en place un peu plus de process et de normes autour de ça, quoi.
Ouais, clairement, en fait. Bon, après, juste pour préciser pour les auditeurs quand même, on utilise énormément l'IA chez Clever pour notre code à nous, pour le code des clients, il n'y a rien qui part dans l'IA. On a comme ça, oui, mais en fait, c'est un truc que toutes les boîtes devraient faire. On réfléchit aujourd'hui avec les opérations à comment est-ce qu'on formalise ce qu'on met dans l'IA ou pas. Ça peut être un autre débat. D'ailleurs, je vous le donne gratuitement, comme ça, aujourd'hui, pour un autre massif. Mais qu'est-ce que tu colles dans l'IA? Qu'est-ce que tu colles pas? Il y a des vraies questions à se poser. C'est une de risques là sont assez intéressants, notamment parce qu'il y a pas mal d'outils qui sont arrivés qui permettent d'interagir avec pas mal de trucs et de générer pas mal de failles de sécu. Mais oui, comment est-ce qu'on travaille en entreprise avec de l'IA at scale avec des équipes? Grosse question.
On n'y est pas encore en tout cas, ça c'est clair.
Après, il y a des projets qui commencent à apparaître. Je n'ai pas eu le temps de tester. Il y a par exemple, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Open Hands. Je vous le mets, le lien. Bah, a priori, c'est justement une plateforme dans laquelle tu peux orchestrer des agents différents sur des projets faits par des développeurs différents. C'est open source. C'est dans ma to-do list de choses à tester. Mais ça ne me semble pas un produit fini ni une méthode. C'est des briques qui commence à apparaître.
Ah oui, mais d'accord, en fait, non. C'est un outil qui te permet de collaborer avec plusieurs agents, pas humains.
Non, et avec plusieurs humains qui ont plusieurs agents. C'est l'idée, c'est justement, et on est dans un problème qui va une magnitude très loin. Maintenant, la plupart des développeurs sont partis dans un mode multi-agent, donc tu vas te retrouver avec 5 personnes sur ton projet, chacun avec 5 agents, avec 25 pièces différentes amovibles. Le problème, il est en train de se complexifier par rapport à il y a 3 mois. Il y a 3 mois, tu avais ta fenêtre Cloud Code ou ta fenêtre machin, maintenant tu as tes 5 onglets agentiques. Cloud Code, maintenant il y a les modes multi-agent ou les modes sub-agent qui existaient déjà, mais surtout les multi-agent. Et donc, la complexité des problèmes se multiplie. C'est pour ça que je me suis intéressé à Open Hands. Et donc, si c'est de facto, le problème va devenir, même quand tu développes tout seul, comment tu fais pour que tes différents agents ne se marchent pas sur le pad déjà. Ça devient aussi un nouveau problème.
Oui, oui.
Après, peut-être un truc qu'on peut dire. Enfin, je trouve que c'est bien que ça émerge, ces solutions-là, parce qu'au final, une mauvaise idée, je pense, ça serait de forcer les gens à utiliser telle ou telle solution, un peu comme à une époque, tu pouvais avoir, non, il faut développer avec Eclipse, avec le Eclipse bundlé pour l'entreprise, avec et ces plugins-là, et surtout pas autre chose, etc. En fait, c'est bien de laisser les gens choisir leur IDE et tout ça, et aujourd'hui, les agents de code font partie de l'IDE, en fait. Donc, moi, je trouve que c'est bien de continuer à laisser la liberté à chacun d'utiliser ce qu'il juge le mieux pour le travail qu'il a à faire. Et après, oui, qu'il y ait des solutions comme ça au-dessus qui permettent de mieux collaborer entre nous. Ouais, ça, c'est... Je pense que c'est un peu le sens de l'histoire aussi, ça. C'est bien. Merci pour le lien. On va regarder ça.
Après, c'est exploré. J'ai posé une question semblable. On m'a dit « Regarde ça !» Et c'était dans ma to-do list. Donc, il est ressorti quand on voyait de qui on parlait. C'est... J'ai vu aussi qu'il y a plein de plateformes. GitHub a sorti tout son workflow dans lequel il est fait par GitHub. Comment s'appelle déjà ça? Les agents SQ, que c'est via Copilot. Mais pour moi, la solution qui me convient n'est pas encore là. Ou s'il est là, je ne l'ai pas encore trouvé.
Non. Non, non. D'ailleurs, tu parlais d'IDE, ça n'a rien à voir, mais tu parlais d'IDE où on avait un IDE bien défini par entreprise. Nous, on n'est jamais vraiment entré là-dedans non plus, mais on avait plein de gens qui prenaient un IDE, je ne sais plus lequel, qui était ultra connu.
JetBrains, c'était...
Ouais, JetBrains, ouais, ouais.
Et là, tout ça.
Voilà, JetBrains Intelligent, parce qu'on trouvait que l'autocomplétion était vachement bien. Voilà. Et là, t'as les outils d'IA qui sont arrivés. Et on a vu le nombre de licences qui est passé, je sais pas, de combien, d'une cinquantaine à moins d'une quinzaine, au profit de plein d'autres trucs. Pareil, Windsurf, c'était il y a un an, a fondu, il a complètement disparu. Personne n'en entend parler, on se demande ce qu'ils font les gens de chez Windsurf. Ça se trouve, ils sont restés au Burning Man.
Oui.
Donc, en fait, si tu veux, c'est drôle de voir à quel point ça change, ça évolue, et les logiques de licence et d'outils dans lesquels tu pensais que ça allait pas des masses changer, bah, ça a quand même vachement bougé, quoi.
Carrément.
Oui, et moi, il n'y a rien de plus qui m'agace que des débats sans fin technico-techniques sur c'est quoi le meilleur outil d'IA à utiliser. En fait, bah, continuez à débattre, les gars, mais demain, ça sera plus vrai, donc... bosser avec ce qui vous convient, en fait, et voilà. C'est pas de savoir qui a tort, qui a raison, parce que ça bouge tellement vite, comme tu dis, Clément, que voilà, il faut pas s'attacher, il faut surtout être capable d'aller tester autre chose, de se dire, bah, c'est bon, ça c'est plus pour moi, il y a mieux, je change. Voilà, tu parlais de Windsurf, c'est vrai que c'était peut-être ce qu'il y avait de mieux en termes de vibe coding.
C'est vintage.
Moi, ouais, mais du coup, ouais, c'est fou quand même de dire qu'un truc d'il y a un an est vintage, ouais, mais voilà.
Alors qu'un truc qui avait un an, aujourd'hui, si tu veux, on va dire, il est mature. À une époque, on disait ça, quoi.
Mais oui, pas à une époque, ça commence à être utilisable.
Moi, je pense un truc, là, si Google Wave était sorti au moment de l'IA...
Ah ouais,
Google Wave, ouais.
Le projet serait optimisé, fini en 2 semaines, peut-être 4 semaines, c'est un truc comme ça. Alors que le truc a bouffé les ressources sur nos pauvres machines qui avaient péniblement 2-3 gigs de RAM.
Mais c'était il est rendu au Google Cemetery, lui, avec le Google Plus et d'autres joyeusetés de l'époque.
Même pas, ils l'ont collé dans la fondation Apache.
Ah, donc c'est pas dans le cimetière des choses que Google...
Alors, c'est dans le cimetière des trucs, mais en tout cas, en même temps, ils ont essayé de lui donner une autre vie dans le truc Apache. Mais on fera un vintage Massy à l'occasion. Franchement...
Il était prêt, nos mots. Il y a gardé ça dans sa boîte.
Il y a des éditions rigolotes à faire.
Massy vintage, il y a notre ça.
Bah oui.
Ouais, killedbygoogle.com, le site, si on veut avoir des rêves de trucs qu'on a oubliés...
Des cimetières numériques, t'en as plein. Hein. T'as celui de Google qui est drôle, mais t'as aussi celui de TechCrunch pour ceux qui veulent regarder. Moi, j'avais un cimetière TechCrunch où toutes les boîtes qui avaient fait la une de TechCrunch et qui étaient tombées, quoi. Et en fait, tu fais le ratio des boîtes dont on parlait à une époque, qui étaient ultra connues et qui d'un seul coup ne sont plus du tout, quoi.
Il y a Polymère dans le cimetière, tiens, Horacio, t'en parlais tout à l'heure. Hein. Il est dans le cimetière, Polymère.
Bah oui. Mais Polymère, il a vécu sa vie et il était ensuite refait avec Lit. C'est un des rares qui ne me choque pas de ce cimetière-là. Après, il y a tellement d'autres. Bon, bah, on peut passer donc à notre sujet. Et là, Clément, parmi les autres, quoi tu voudrais nous parler? Ou Sébastien, si vous savez.
Ah, dans Tech et Société, j'aimerais bien entendre Sébastien sur.
Ah oui.
Sur ton article de l'UMA.
Ah oui, moi aussi.
Oui, oui. Alors, tout le monde a entendu parler des suppressions de postes chez Capgemini il y a quelques jours ou semaines, enfin quelques semaines maintenant. Suppression de 2400 postes. Alors, ce qui est très drôle, juste je repose un peu le contexte de pourquoi j'avais envie de parler de ça. Débat encore entre collègues à la machine à café sur en quoi l'IA impacte le futur de notre métier de développeur. Sujet prégnant dans les derniers podcasts aussi du Massy, etc. Oui. Moi, j'ai une vision assez personnelle de la chose qui est de dire en fait, il va y avoir forcément... Enfin, en gros, on a vécu jusqu'à présent une époque dorée où il y avait le plein emploi, des gros salaires, etc. J'ai toujours dit, même avant l'IA, que ça durerait pas tout le temps. Et là, je trouve que l'arrivée de l'IA telle qu'on la connaît a précipité tout ça et du coup, allait changer notre métier. Et forcément, qu'il y allait avoir des impacts d'un point de vue employabilité du secteur, quoi. Et une semaine après, il y a cet article qui sort. Donc, il y a des collègues qui me trouvaient un peu pessimiste. Et donc, quelques jours après, du coup, cet article sort. Une de mes collègues me dit « Ah bah dis donc, t'avais peut-être raison finalement. » Et ça commence par là. Bon, du coup, au début, je me suis dit « Ah oui, en effet, ça y est, c'est parti. » Et puis après, j'ai commencé à lire deux, trois trucs de gens qui disaient « Mais attendez, est-ce que c'est pas le prétexte? Est-ce qu'ils n'avaient pas de toute façon envie de licencier des gens? Et est-ce que l'IA, c'est pas le prétexte qui a servi à ce licenciement-là ?» Donc la question est ouverte, c'est est-ce que c'est le début, on va dire, d'un grand cataclysme pour tout ce qui va être principalement les sociétés de services, hein. On va peut-être être les premiers touchés, moi j'en fais partie hein, d'une ESN, mais peut-être que c'est nous qui allons être les premiers impactés par ça, ou est-ce que ça va être un prétexte finalement pour licencier en disant à qui veut bien l'entendre, ah oui mais maintenant on a besoin de moins de développeurs avec l'IA, donc allons-y gaiement, appuyons sur le bouton des licenciements, quoi. Voilà.
C'est intéressant parce que, en fait, c'est pas le seul article qui en parle. Il y a un article du Guardian qui est sorti il y a un jour également qui disait globalement l'IA c'est un le bon dos pour parler en fait du fait de virer du monde. Et c'est très probable. Après, je pense qu'il y a des boîtes qui l'ont fait de façon très, très, comment dire, très opportuniste en se disant tiens. C'est bien, on peut faire un dev pour deux, c'est pas mal avec l'IA. Je pense que les gens qui vont faire ça vont regretter amèrement. Je pense que tu peux pas dire à un dev de multiplier son nombre de projets avec de l'IA et baisser le coût. En fait, moi je trouve qu'aujourd'hui l'IA elle a vraiment de l'intérêt dans les mains d'un dev vraiment expert. En tout cas pour la production. Pour l'apprentissage, je trouve qu'elle est très bien aussi quand elle est utilisée pour l'apprentissage. Néanmoins, je trouve qu'elle est vraiment pertinente quand tu vois un dev expert arriver dans une code base et avancer de façon extrêmement calme et concentrée avec l'IA. Parce que, en fait, t'as cette expérience en fait, qui te permet de pré-shot les problèmes que tu vas avoir si tu vas un peu vite ou si tu boules les étapes. Je trouve ça intéressant. Du coup, je trouve que il y a deux choses, soit tu vires pour avoir cette logique économique et tu vas perdre parce que justement tu te débarrasses des bons qui savent utiliser l'IA justement. Et de l'autre côté, tu fais du, comment ils appellent ça, du IA washing, où globalement t'expliques aux gens, AI washing, C'est-à-dire qu'en fait, tu dis marketing, IA, on va être meilleur, plus grand, plus fort. Tu es juste en train d'essayer de faire en sorte de dégraisser, quoi, de façon complètement dégueulasse. Et ça passe, en fait. Et ça passe. Oui, alors, cet article est intéressant là-dessus.
Oui, on pourrait se dire, plutôt que de licencier, parce qu'en effet, on produit plus vite, on pourrait se dire qu'on produit plus de valeur, en fait, et que du coup, et plus de qualité. On pourrait très bien garder le même staffing et se dire, on va produire des features plus vite, pour un meilleur time to market, être meilleur par rapport à nos concurrents.
On va gérer le legacy.
On va enfin se débarrasser du legacy que personne ne voulait toucher parce que c'était incompréhensible, etc. Donc on peut le voir différemment. On peut avoir une approche non comptable de la chose. Je me rappelle la conférence de Quentin qui s'appelait « Les comptables ont fucked up mon IT ». C'est peut-être un peu le même problème finalement. Il ne faut peut-être pas laisser les comptables gérer la stratégie là-dessus et se dire qu'on peut produire mieux, plus vite, de meilleure qualité, etc. quoi.
Je suis aligné.
Ah bah, complètement.
C'est dommage, on aurait pu avoir un débat là-dessus, ne pas être d'accord, mais non.
Non, mais je suis très optimiste parce que je pense aussi qu'il va y avoir une pression qui va faire que s'il va y avoir des boîtes qui vont produire plus avec le même nombre de développeurs. Et donc, l'idée de garder la production actuelle en réduisant les développeurs va être anticompétitif, si tu vois ce que je veux dire. Pour moi, il y a des façons de faire, et vous l'avez expliqué très bien. Soit on garde le même nombre de développeurs et on fait plus, ou on fait mieux, on élimine les legacy, soit on décide de diminuer les développeurs et rester avec le statu quo. Mais comme il y a des boîtes qui vont faire ça, les boîtes qui vont vouloir rester avec le statu quo, il va y avoir une pression pour qu'ils fassent aussi ces plus-là. Donc, c'est mon espoir, en tout cas.
Après, avec mon Clément, je sens que t'es triste qu'on soit tous d'accord et qu'il n'y ait pas vraiment de débat. Alors, du coup, je vais me faire un peu l'avocat du diable. Est-ce qu'il n'y a pas des fois, quand même, dans certaines boîtes, où on est de trop à l'IT pour faire ce qu'on fait, quoi. Moi, je me pose vraiment cette question-là. Je parle de structures, on est plusieurs centaines pour maintenir à SI, 800, 1000. Peut-être qu'il y a quand même, je parlais d'époque dorée tout à l'heure, peut-être que aussi il y a des choses à revoir structurellement. C'est un peu triste, un peu délicat de parler de ça, mais voilà. Moi, je, en tant que Presta dans une ESN, j'ai vu plein de contextes clients différents et des fois, oui, je trouve qu'on est trop et on serait plus efficace par exemple, renforcer les liens, peut-être simplifier les strates décisionnelles, managériales, etc. Faire en sorte que les développeurs plus parlent plus aux utilisateurs. Donc ça va peut-être dégraisser un peu, mais est-ce que c'est pas est-ce que au final c'est pas aussi nécessaire sur certaines méga structures? Je sais pas, c'est une question.
C'est probable. En tout cas, je sais qu'à un moment donné, il y avait eu juste après la post-pandémie où le passage au numérique de certaines entreprises était devenu un peu une évidence après la pandémie. Il y a eu un surinvestissement dans les postes de dev où on cherchait tout. Mais c'est vrai qu'il y avait une volatilité qui n'était pas si forte avant du poste de dev, qui l'est devenu un peu plus, qui a vraiment monté post-pandémie et qui est maintenant et un peu plus incertain juste après l'arrivée de l'IA. Je pense qu'on arrive dans une espèce de systole, c'est-à-dire une courbe qui monte très très haut, qui descend très très bas et qui se rééquilibre un petit peu un peu plus tard. Peut-être, je sais pas.
Mais en tout cas, il y a un sujet qui là est sûr, c'est, on en parlait un petit peu dans l'épisode précédent, c'est pour les juniors. Aujourd'hui, c'est quand même, je sais pas vous quelle vision vous avez, mais le marché de l'emploi est compliqué pour les devs qui sortent juste de l'école. C'est pas l'époque qu'on a pu connaître nous, où on avait le choix dans les entreprises où aller. On pouvait dès la sortie de l'école faire monter les enchères au niveau de notre salaire. J'ai l'impression que ça a drastiquement changé, brutalement quand même, et qu'aujourd'hui sortir de l'école et arriver junior, c'est pas si simple, quoi. Voilà.
Non, c'est aussi parce que en fait, les projets informatiques s'étant énormément complexifiés, c'est toujours de plus en plus difficile, puisque le métier, il a avancé, il est extrêmement jeune, le métier de l'informatique. Mmh. Avant, si tu veux, t'avais la complexité par le code, maintenant, t'as des complexités managériales, t'as des complexités politiques dans l'informatique, t'as des complexités juridiques, t'as des complexités systémiques, c'est-à-dire qu'en fait, t'es dépendant de plusieurs providers dans tous les sens, de microservices, etc. T'arrives plus sur un projet monolithique, où on disait, toi, tu vas t'occuper de cette partie-là. Mmh. C'est compliqué, en fait, d'onboarder des gens. Chez Clever, nous, dans notre structure, je ne sais pas combien de logiciels on a qui travaillent en parallèle de concert pour faire de l'orchestration. C'est un gros morceau. Et il faut voir la gueule de l'onboarding quand tu arrives là-dedans et que tu vas travailler sur l'orchestration. Ce n'est pas gratuit. Et ça prend des mois, des années. Et c'est clair que d'avoir quelqu'un qui est senior va aller un peu plus vite, parce qu'il comprend un peu plus, parce qu'il a l'expérience et qu'il a vu ces trucs-là. Même si t'es un très très bon développeur, extrêmement junior, vraiment très compétent sur une verticale, c'est l'appréhension d'un projet à plusieurs qui est quand même plus difficile. Mmh. Bon, après c'est juste, moi je me dis, bah, l'IA peut être super. Pas que l'IA, mais l'IA qui permet de faire en fait des onboardings un peu intelligents, et c'est un sujet sur lequel on réfléchit avec Quentin en ce moment. C'est comment est-ce que tu fais pour que quand des gens arrivent chez toi, tu passes en fait leur onboarding d'un an, je dis d'un an d'onboarding, c'est pas vraiment d'onboarding d'un an, mais toi tu commences à faire le tour au bout d'un an chez nous quand même. Comment est-ce que tu passes ça à 6 mois, sans que ce soit désagréable pour la personne en face?
Ouais, un an d'onboarding, oui, mais après c'est pas étonnant vu la complexité des systèmes comme tu disais.
Il n'y a pas que nous, c'est-à-dire dans toutes les grosses boîtes aujourd'hui, les projets informatiques, ils n'ont pas la même gueule qu'il y a 15 ans. Ouais, avant tu arrivais sur, je sais pas, une intégration de ton ERP d'un truc, c'est fini ça, t'as des trucs beaucoup plus
mais
compliqués.
Il faut continuer d'onboarder des jeunes, parce que sinon on se tire une balle dans le pied, je pense, parce que les juniors d'aujourd'hui sont les seniors de demain, et nous un jour... on ne sera plus là, on partira à la retraite bien méritée. Donc, si on a un trou comme ça dans la raquette avec une génération qui finalement est partie faire autre chose parce qu'ils n'ont pas eu de travail dans notre secteur, je pense que c'est grave. Donc, il faut vraiment pas négliger ce sujet. Revoir la formation, les onboarder très probablement différemment de ce qu'on faisait il y a quelques années. Mais il faut y aller et les accueillir, quoi, parce que sinon, ça ne va pas le faire.
Après, si tout à l'heure, j'étais très optimiste par rapport au futur de notre métier, sur le court terme, je suis relativement pessimiste, justement parce que j'ai l'impression que beaucoup de boîtes sont parties dans une approche court terme, de les développeurs seniors avec la IA me donnent un gain de productivité énorme, je vais plus m'embêter avec des juniors. C'est cru à dire, mais j'ai l'impression que, de ce que je vois, que c'est le raisonnement de beaucoup de boîtes. Et donc, tant que ces façons de penser très court-termistes soient encore là, je pense que ça va rester compliqué pour les juniors et que donc ça influence énormément l'attractivité de notre métier pour les quelques temps à venir.
Oui. Un vrai sujet de société, ça.
Et de management.
Et de management.
Oui, parce que c'est un choix. C'est presque militant, en fait.
C'est une politique. C'est une politique interne. Ah, c'est coton. Moi, j'avais envie de parler d'un autre sujet qui était moins tech, beaucoup moins tech. Où est-ce qu'il est déjà? C'était. Attends, mais où est-ce que je l'ai collé?
Ah oui. La position comment... de Clever, c'est ça?
Non. C'était pas ça. C'était comment est-ce que je gère de gros projets, en fait. C'était un article d'un gars qui s'appelle Ben Kuhn, qui était assez intéressant, qui expliquait comment, en fait, tu gères, en fait, des projets un peu conséquents. Et quand je l'ai lu, je me suis dit, mama, ça ressemble vachement à comment on gère les outages chez Clever, comment on se met en place une équipe projet et comment est-ce qu'on débug un outage majeur. Genre, tu sais, on perd un serveur, ça devient une situation de crise, parce qu'il y a pas mal de services qui sont très différents, très hétérogènes, faut mitiger, il y a les clients qui arrivent d'un côté, il faut aller se farcir les fournisseurs en face quand ils ont merdé, ce genre de choses. Et là, je trouvais l'article plutôt intéressant. C'est un gars de chez Anthropic qui explique un petit peu comment est-ce qu'il a géré une partie de l'IT, notamment quand, sur des temps extrêmement contraints. Et il a toute une méthode super intéressante de loop. Et un truc que j'ai retenu, c'est qu'il fait exactement ce qu'on fait. C'est 80% de communication de gérer un problème dans ton contraint. 80% de communication. C'est-à-dire que tu passes ton temps à répéter tout le temps les mêmes choses à plusieurs équipes, sur plusieurs messages, le moins possible en one-to-one, le plus possible en broadcast, et tu passes une grosse partie de ta journée, après avoir fait le ménage de ton calendrier, à organiser les choses pour pouvoir les dérouler. Et gérer des documents dans lesquels tu as les plus grosses questions qui doivent avoir des réponses. Une fois que tu as ces réponses, tu remets des questions plus importantes par-dessus, etc. Tu passes ton temps au téléphone avec les fournisseurs et tu essaies de faire converger l'information. Alors, j'ai pas trouvé d'IA qui fait ça. Clairement évident. C'est un gros boulot d'humain. Et l'un des trucs les plus importants, je pense, de l'article, c'est amusez-vous. C'est globalement juste à la fin.
Amusez-vous.
Amusez-vous, c'est-à-dire qu'en fait, il faut vraiment avoir envie de faire ce genre de choses. C'est-à-dire que les bons chefs de projet qui sont capables en fait de gérer ce genre de trucs assez techniques, c'est des gens qui adorent faire ça. C'est-à-dire, c'est pas des gens qui sont dans l'exécution, on va dire, séquentielle de choses très carrées. C'est comment tu changes ton fusil d'épaule littéralement toutes les demi-heures. C'est un truc que j'aime d'ailleurs beaucoup chez Clever à un moment donné. Quand il y a quelques nids de poules. Et j'ai trouvé cet article plutôt rafraîchissant, parce que c'est un truc que j'ai déjà vu, que je connais, et en même temps, on n'en parle jamais. C'est pas une méthode extrêmement précise, néanmoins, c'est intéressant.
Oui, j'aime bien des notions comme over-communicate, sur-communique, et l'idée voilà, de... C'est fait pour des gens qui sont capables de supporter, même de trouver sympa un environnement qui est très chaotique par moment, quoi.
Ouais, et ça parle pas des post-mortem, non. Ça parle vraiment du cœur du réacteur, c'est comment tu gères. D'accord. Et ça montre un petit peu comment une boîte comme Anthropoc est finalement pas si différente dans sa façon de gérer les choses que chez nous, en fait. Où on avait dit, nous, très rapidement, dès qu'on a un incident, on blâme personne, on verra les responsabilités plus tard s'il le faut, et si... Voilà. On met la priorité sur les canaux de communication, donc on en a plusieurs. Donc on a des discussions dans un flux linéaire qui ressemble à Discord, où les gens se parlent en live, mais en même temps on capitalise sur un Slack pour avoir une timeline écrite. On commence déjà les rédactions de post-mortem en attendant, et après il y a une communication entre plusieurs corps de métier, c'est-à-dire tu as les opérations, la partie engineering, le support, comment tu fais que ces gens-là qui ne se parlent pas d'habitude tant que ça doivent augmenter en fait leur flux de communication au maximum, enfin leur fréquence de communication jusqu'à plusieurs dizaines de fois par heure. Quoi.
Et est-ce que du coup ton rôle c'est aussi de protéger les gens qui essayent de, via cette communication intensive on va dire, d'aller protéger les gens qui vont résoudre le problème pour pas qu'ils soient sollicités dans tous les sens et que du coup ils perdent en efficacité.
Le pare-feu ultime étant le support, effectivement, aucun client ne doit... Ou les ventes aussi, parce que tous les commerciaux se prennent un coup de tête. Et ça c'est ultra important que tout ce qui arrive du support et compagnie ne revient pas en fait vers les ingés. Parce que ça fait monter la pression inutilement, tu vois.
Mais c'est pas le moment, quoi.
Dès qu'il y a un incident, tout le monde est déjà bien blanc, tu vois.
Excellent.
Voilà, donc je vous encourage à lire cet article qui est bien. J'ai essayé de le résumer, ça ne vaut pas le coup, il faut vraiment se le farcir. Surtout à la fin, il y a un index et un appendix qui est un peu intéressant. En fait, tu as les outils de management qui sont indiqués. Voilà, c'était juste le petit document que je trouvais plutôt intéressant du moment.
Bon, bah, nickel. Et sinon, normalement, on parle toujours d'outillage et dans ce dernier épisode, on n'a pas trop parlé, mais heureusement que Sébastien nous avait collé des petits points sur l'outillage avec Magica et GodCounter. Tu nous racontes?
Oui. Ah oui, alors c'est deux petits outils que j'ai utilisés récemment, alors qui viennent pas de sortir, hein, mais que moi j'ai utilisé récemment sur des projets. Alors GodCounter, en fait, je cherchais désespérément une solution de web analytics. On va dire RGPD compliant et qui ne pose pas de cookies de tracking dans le navigateur et qui soit, alors c'est comme c'est pour un side project perso, qui ne me coûte pas d'argent. Voilà, donc le cahier des charges était
clair,
clair et, mais pas simple parce que, alors évidemment, des solutions de web analytics compliant RGPD, il y en a. Alors il y a Matomo hein, qui est largement connu, qui est dispo comme add-on Clever, si je ne m'abuse.
Oui, c'est ça. Absolument.
Voilà.
Et qui a cette option RGPD où tu peux faire voilà. du suivi sans cookies.
Sans cookies, tu peux du coup anonymiser les IP, voilà. Donc ça, c'est plutôt cool. Malheureusement, peut-être à terme, j'irai vers ça, mais là, j'ai pas de modèle économique pour mon side project. Donc du coup, moi, j'avais un besoin tout simple, hein, d'avoir juste compter les visites, avoir 2-3 trucs, voilà. Et donc du coup, j'ai trouvé cet outil-là, GoatCounter, qui est open source et qui est hyper simple à installer et qui, en effet, ne pose pas de cookies, qui en gros garde une session en mémoire côté serveur avec une espèce de fingerprint d'une durée de vie de 8 heures et voilà. Alors après si vous voulez essayer le dashboard, c'est pas Matomo, c'est pas Google Analytics hein, c'est hyper bas niveau.
Oui, mais ce que je regardais
fait... oui alors attention, voilà, ça c'est disclaimer, mais il y a le minimum de stats qu'on attend d'un outil de web analytics. Après il y a pas tout ce qui est funnel, tunnel de conversion, les trucs un peu marketing, etc., mais bon, il y a le minimum vital.
C'est vraiment unique. Pour ceux qui nous écoutent, qui ne voient pas, pas forcément la page, j'ai le truc sous les yeux. Et ça, c'est vraiment un projet qui fait très 2010, qui a été codé en 2026.
C'est ça.
Parce que c'est pas à côté de la plaque. Et c'est quand même basique. Mais bien basique. C'est-à-dire qu'avec les standards de ce que tu attends aujourd'hui.
Oui, on pourrait demander à l'IA de refaire la UI, ça coûterait peut-être pas très cher.
Non, et j'aime bien en fait, j'aime bien la vibe.
C'est un côté vintage, je m'attends presque à voir un truc blink en construction, ah ouais. Quoi, si vous savez la ref.
Ouais.
Oui, mais c'est pas de mauvais goût. Et franchement, non. C'est joli. Enfin, c'est joli. T'as vraiment l'impression de voir les. Oui, ouais. Voilà, il y a une vibe, tu sais, interface d'admin de Wikipédia qui n'a pas été mise à jour depuis longtemps.
Exactement. Et le deuxième outil, qui n'a rien à voir sans transition, c'est une petite librairie de Google qui s'appelle Magica. Alors, on a lancé un audit de sécurité sur une de nos applis pour un client, en mode boîte grise, qui tourne une appli qui tourne chez Clever, d'ailleurs, hein, pour la petite histoire. Et juste, petite info entre parenthèses, avant de mener un audit de sécurité sur une appli hébergée chez un hébergeur comme vous, et en fait il y a des documents à remplir avant, il faut quand même prévenir l'hébergeur un minimum, voilà, pour dire qu'on va mener un pen test ou ce genre de choses. Donc ça c'est,
hop, habitué,
je ferme la parenthèse,
ouais.
Mais moi je le savais pas trop au début, donc je vous avais contacté dans le support un peu pour vous dire, on va faire ça, ah oui mais attention, il y a quand même 2-3 trucs à remplir. Bref, ça c'est la petite parenthèse. Et donc du coup, un des points de l'audit, c'était sur une fonctionnalité d'upload de fichiers dans notre logiciel. Et en fait, on ne vérifiait pas assez en profondeur le type MIME du fichier qui était uploadé. Alors en fait, oui, nous on regardait juste le content type en gros et on se contentait de ça. Donc sauf que ça c'est assez facile à faker, on va dire. Et donc du coup, il y a cette librairie Magica de chez Google avec de l'IA dedans et qui va du coup permettre de regarder en regardant vraiment dans le binaire du fichier son type MIME réel. Voilà. Donc ça marche plutôt bien et nous on l'a exposé sous forme d'API, voilà, cette librairie. Et ça marche, voilà, ça marche du feu de Dieu et on a plutôt un taux de fiabilité très très élevé sur la détection du type MIME réel des fichiers. Voilà. Donc Magica, si vous voulez faire ça.
C'est rapide en plus. Le modèle se charge dans ton navigateur et tourne rapidement.
Excellent.
Ouais, c'est plutôt pas mal. Voilà. Deux petits outils sympas à utiliser récemment.
Magica pour vos uploads de fichiers, enfin safe côté back-end. Ouais. Ah, c'est bien.
Exactement.
Mmh. Plus loin que de checker l'extension, effectivement.
Oui, va... voilà.
C'est bien. Moi, niveau outillage, je voulais parler de .files. Vous connaissez les Dotface, Sébastien, Clément?
Oui.
Non, pas du tout. Bah, je ne connais pas.
Dans ton Linux ou dans ton Mac, tu as des fichiers de configuration qui commencent par un point souvent, qui sont éparpillés partout dans ton home. Et donc, le problème classique, c'est qu'est-ce que tu fais de ces fichiers-là quand tu changes d'ordi ou quand tu maintiens des ordi, comment est-ce que tu les versions? Et normalement, l'explication classique, c'est bah, tu te les refais à nouveau à chaque fois que tu changes d'ordinateur. Et depuis des années, il y a un mouvement qui s'appelle .files, qui c'est t'outiller pour que tous ces fichiers-là, tu puisses les regrouper à un seul endroit, soit physique, soit avec des liens symboliques, soit avec un repo Git, et que tu puisses automatiquement les sauvegarder, les synchroniser et garder ta même configuration de tes éditeurs, de tes outils, de ton cloud, de tout ce que tu veux, de la même façon. Et il y a un article très intéressant de notre collègue Hubert qui explique comment il l'implémentait en fan après avoir hésité et comment il s'aidait de Claude pour le rendre encore plus souple le système. Et moi, ça m'a poussé à en fan de faire les sauts et je trouve que c'est de pur bonheur me dire que je n'ai pas besoin dans chaque ordi que je touche de devoir reconfigurer mon Visual Studio Code, mon Vim, n'importe quel outil que tu passes de plom à configurer quand tu es dans un nouvel ordinateur. Et en plus, ça montre comment un projet sympa tu peux t'aider de Claude pour le rendre plus simple à implémenter et expérimenter aussi un petit peu. Dans l'article, je l'ai trouvé très sympa. En tout cas, moi, ça m'a inspiré à faire les sauts et gérer mes dots files d'une façon plus propre.
Et ce qui est super, c'est qu'il a, filé en fait son dot file, sa configuration, dans laquelle vous pouvez retrouver pas mal de choses, dont un git reflog, donc l'historique de git, dans une interface graphique dans le terminal, un TUI. Il y a la Claude Code Status Line que je cherchais à faire justement hier, donc là j'ai un peu la réponse. Vous avez globalement en fait dans votre terminal, votre terminal prompt qui s'affiche et qui indique quel pourcentage en fait de Claude il vous reste en fait dans la fenêtre de contexte. Je trouve ça superbe.
Il y a énormément de petits détails, des alias, des trucs qui font que le terminal et ton ordi deviennent les tiennes parce que c'est adapté à ta façon de l'utiliser. Et donc je trouve que c'est un gain de temps énorme.
Et pourquoi? Pourquoi je faisais pas ça avant? C'est un peu ce que dit Hubert dans sa conclusion.
Mais on s'est dit
ça pendant 15 ans, mais pourquoi?
Une fois qu'on l'a fait, la question que se pose tous, c'est pourquoi il était feignant et j'ai pas fait les pas avant?
C'est ça.
Donc, moi, je trouve que c'est très cool. Je ne l'ai pas fait à la façon Hubert. J'utilisais YKDM comme outil, mais je vous le mets aussi là. Mais j'ai suivi la même philosophie, .files, avec YKDM.
Ah oui, YKDM, je ne connais pas. Mais c'est une autre méthode, c'est un...
Il y a un qui utilise des liens symboliques et l'autre qui utilise c'est un wrapper sur la commande de Git et il laisse les fichiers là où ils sont, mais il les regroupe tous dans un même repository. Donc, les deux ont des avantages et des inconvénients. De toute façon, dans l'article de Hubert, il cite plusieurs façons de faire. Il y a plusieurs méthodes pour gérer les deux files. Je pense qu'il faut trouver ce qui s'adapte le plus à ta façon de faire. Et maintenant, j'ai aussi donc, sur mon GitHub mon petit dépôt .file qui me correspond à moi.
Excellent,
ouais, c'est trop cool. En tout cas, merci Hubert. Je n'avais pas vu passer cet article.
Oui.
Je suis à la bourre sur le Slack.
Voilà.
Désolé.
Ah, mais c'est pour ça que je préfère les partager. Bon, bah, je pense qu'avec ça, on va pouvoir s'arrêter là. Et cette fois, c'est à Clément de me dire quelle musique tu écoutes en boucle.
Tu sais que en ce moment, j'écoute assez peu de choses parce que j'ai pas trop le temps. Mais néanmoins, je suis tombé sur, il n'y a pas très longtemps, sur l'Impératrice que j'écoutais pas assez souvent. Et je dois admettre qu'il y a un petit album qui est franchement pas mal, qui est sorti il y a quelques années, qui m'a fait vachement envie. Et dans cet album, il y a une musique qui s'appelle Cosmologie ou Cosmogonie. Et je pense que ça vaut grave le coup de l'écouter, parce que c'est une intro de l'album qui est absolument géniale.
Est-ce que t'y allais ?
La musique s'appelle Cosmogonie, et l'album s'appelle Pulsar.
Cosmogonie, Pulsar.
Voilà. Belle découverte. Enfin, c'est vraiment de l'électro sans parole, comme j'aime bien et tout, et c'est trop cool.
Parfait. Bah, avec Cosmogonie, on va vous dire au revoir. Merci Clément, merci Sébastien, c'était un plaisir
merci
de faire
cet
épisode avec vous.
Super.
Et merci à tout le monde de nous écouter. À très bientôt. Au revoir.
Salut.
Merci. À bientôt.
Au revoir.
Salut.